That was the freedom bell. To remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'heure de l'apéro.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech.
Radio.
Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
Apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'apérophonie de ce jeudi 7 mars. Jour particulier puisque aujourd'hui à l'aquarium se tiendra une soirée spéciale en l'honneur des groupes universitaires, donc les groupes Le Tremplin Rue. Voilà, donc pour mettre en avant tout un ensemble de groupes s'exprimant dans diverses esthétiques. Et à cette occasion, on reçoit ce soir le groupe OPTM. Bonsoir.
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 Donc un duo, vous l'aurez compris, composé de Valentin et Baptiste. Guitare, batterie, on va en parler un peu plus. On a toute l'émission pour ça. Je salue aussi Jérémy et Louis à la technique. Salut.
Salut, salut.
Et merci à vous de nous accompagner et d'assurer le son pour ce soir. Donc on va passer évidemment de la musique pour vous faire découvrir ce groupe. Et pour commencer, on va faire les présentations. J'ai donné vos prénoms, mais voilà, comment est né le projet? Comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que c'est OPTM? Dites-nous en plus.
Alors OPTM, c'est une aventure qui a démarré au courant de l'été 2017. Avant cela, avec Baptiste, on vient d'un projet musical qui s'appelait Valencia Motel, qui est né dans le sud de la France, à Nîmes, en 2011. Suite à ça, voilà, les chemins se séparent, les études, tout ça. Et avec Baptiste, on se dit quand même, la musique, ça nous manque. Alors on a commencé à jouer tout seul dans notre coin. Et puis voilà, c'est en juillet 2017 qu'on s'est dit, ok, viens, on essaye de faire un truc avec ce qu'on a là. Ok, on est un duo, ok, on est que deux, mais viens, on essaye de se lancer dans l'aventure, voilà, que tous les deux. Et de là est né OPTM. On a d'abord enregistré une petite démo de titre donc à Nîmes, qui est notre ville de base, c'est notre QG.
Votre fief.
Exactement. Et puis voilà, le chemin a fait qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs scènes, d'enregistrer un EP fin 2018 en Belgique, qui est sorti le 20 février 2019, qu'on peut retrouver donc sur toutes les plateformes.
Ouais, mais tu vas vite là quand même.
Je vais super vite, ouais, voilà, mais c'est un peu l'histoire d'OPTM.
Ouais, mais c'est bien. Voilà. Et du coup, tu parlais de travailler un peu chacun dans son coin, c'est-à-dire qu'avant vous aviez développé comme ça des envies, oui, voilà, chacun de votre côté, etc. Creuser un peu vos pistes et vos références singulières à tous les deux. Et avant de vous retrouver, ça, vous avez quoi?
Bah, en fait, pour t'expliquer, on était quatre dans le groupe d'avant.
D'accord.
Il y en avait deux qui avaient des influences qui étaient pop, on va dire. Ouais. Et nous, on était les deux gars qui avaient les influences les plus rock.
Donc,
qu'on se retrouve tous les deux, on a commencé à faire de la musique. Et en fait, au début, on cherchait pas à structurer la chose, juste on jouait. On faisait des buffs tous les deux.
Ouais.
Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on mettait des plans de côté, qu'on laissait traîner l'iPhone à enregistrer pendant les répètes. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on a quelques plans là, peut-être qu'on peut en faire des morceaux et peut-être qu'on peut aller plus loin.
Et il y a un son assez caractérisé hein, sur votre EP, album, je sais pas comment on peut dire ça, parce qu'il est quand même, pour un EP, il est assez fourni. Je crois qu'il y a une petite dizaine de titres quand même, donc c'est.
Il y en a 7.
Il y en a 7.
Voilà, ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout, et au-delà du nombre, c'est la cohérence, la densité, la qualité qui frappe. Il y a une certaine puissance, une vraie énergie, et il y a du relief. Donc voilà, comment vous caractériseriez votre son avant qu'on en écoute ? Parce qu'on va rentrer aussi dans le vif du sujet quand même. Hein.
Moi, je crois que tu l'as très bien défini, puissance et énergie, c'est vraiment deux adjectifs qui nous animent.
Mmh. Et calme et tempête.
Ah, c'est bien de jouer sur les contrastes. À Campus Grenoble, on aime les oxymores. Et donc, voilà, on a ici des poètes rockers, comme on savait les faire au tournant des années 70-80. Je pense que c'est votre période de référence, j'ai l'impression.
Exactement, c'est avec ça qu'on a grandi.
Ouais. Donc, on l'entend, effectivement. Et j'ai envie, sans plus attendre, parce que je pense que les auditeurs, avec ce qu'on a déjà suggéré, ont certainement envie d'en savoir plus et surtout d'en écouter un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire entendre pour qu'ils puissent découvrir un peu votre univers en premier ?
Premier, on peut s'écouter Zombie.
Ouais, c'est très bien.
Eh ben allons-y, Zombie d'OPTM sur Campus Grenoble 90.8.
Because of the obvious threat to untold numbers of citizens due to the crisis that is even now developing, this radio station will remain on the air day and night. This station and hundreds of other radio and TV stations throughout this part of the country are pooling their resources through an emergency network hookup to keep you informed of all developments. At this hour, we repeat, these are the facts as we know them. There is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins. The murders are taking place in villages and cities, in rural homes and suburbs, with no apparent pattern nor reason for the slayings. It seems to be a sudden general explosion of mass homicide. We'll be right back.
The Flesh.
Et oui, on est de retour avec les zombies, mais nous sommes bien vivants sur Campus Grenoble 90.8. Et j'ai donc Valentin et Baptiste à mes côtés du groupe OPTM qui se produira sur la scène de l'aquarium ce soir dans le cadre des tremplins de rue. Donc bien content d'être avec vous, et pendant la pause, on parlait de vos influences, parce que évidemment, comment ne pas remarquer que il n'y a pas que de la musique, mais on va d'abord peut-être parler de musique et du son primaire, des guitares brutales, solides, physiques, qui s'en extrait, qui nous percute. On va en parler parce que on peut pas y échapper. On le disait, il y a une énergie, cette physicalité, vous la revendiquez, vous y allez à fond.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on essaye de cultiver. Enfin, c'est disons que c'est un atout qu'on s'est découvert plutôt. Et bon, enfin, c'est quelque chose d'assez spontané. On le calcule pas vraiment.
Ouais, mais
on le cultive, ouais. Mais on le calcule pas vraiment. En fait, ça sort comme une impulsion, quoi. Et c'est vrai que généralement, du coup, après nos concerts, on est très très fatigué. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a envie de jouer notre musique. C'est on a envie de s'investir physiquement, et ça se ressent, je pense, du coup, comme tu le dis, musicalement.
Mais quand on prend l'esprit du rock indé des années 80, c'était quand même aussi beaucoup, ça fonctionnait beaucoup de la manière dont tu le décris là, c'est-à-dire sur une espèce d'énergie qui se donnait comme ça dans l'instant, avec davantage que de la technique et que vraiment des virtuoses de leur instrument, avant tout des gens qui étaient là pour provoquer une sensation inoubliable, ouais, au public. Et voilà, aller dans l'impact et le choc, quoi, avec cette idée de transformer les esprits et de produire une espèce de révolution musicale. Donc voilà, est-ce que vous sentez quelque part, enfin c'est peut-être lourd à porter, attention, hein, mais vous reconnaissez dans ces valeurs-là, en fait
Dans les valeurs de l'époque, tu veux dire?
Moi, je pensais, ouais, que le côté, en plus, je me suis pas mal intéressé à ça, mais le côté... en plus, on en parlait là hors antenne, mais le côté sombre, un peu torturé, ouais, etc., mais... du post-punk de l'époque glorieuse de la fin 70, début 80 en, oui, Angleterre et tout. Bon, les groupes qu'on connaît et d'autres un peu plus confidentiels, etc., mais on va pas reciter New Order et compagnie, mais...
Mais ouais, c'est totalement ça. On se retrouve carrément là-dedans pour une simple et bonne raison, qui est que depuis qu'on est gosse, on écoute ça. Nos parents écoutent ça, on a baigné là-dedans, et du coup c'est comme un héritage que tu portes. Alors ça veut pas dire qu'on n'écoute pas des choses actuelles, mais moi mon esprit il est vraiment tourné vers cette époque qui pour moi a été formatrice et déclencheuse dans mon envie de faire de la musique. Tu vois, j'avais envie de faire de la musique pour faire ce style de musique et pas forcément autre chose.
Ouais, voilà. Et puis de toute façon... on parlait là hors antenne de malaise, de voilà, de je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne fort avec les questionnements aussi d'une époque qu'on peut dire aussi actuelle, qui se questionne sur un modèle de civilisation, sur des valeurs
ouais, voilà, là tu vas loin, mais c'est un peu ça.
Sur des valeurs techniciennes hyper investies et tout, alors que il y a peut-être aussi d'autres choses au-delà du côté machinique à revendiquer. Mais bon, voilà, en tout cas, cette révolte-là, peut-être qu'elle est aussi nécessaire aujourd'hui.
Elle est nécessaire, et puis on est dans une période où, de manière, si tu prends la musique mainstream, il faut que tout soit super beau, super lisse,
oui, oui,
super bien produit, et certes, il faut bien produire les choses, mais... comment dire, c'est pas interdit de faire quelque chose de dark et qui sort un peu des tripes, tu vois. Nous, dans nos vies respectives, ça va plutôt pas mal, hein. On n'est pas plus torturés que ça.
Ouais,
je rassure les auditeurs qui se diraient, putain, c'est quoi ces fêlés là qui sont encore là. Mais c'est juste qu'on aime bien explorer ces atmosphères, ces ambiances.
Bien sûr.
Bah, je pense que de toute façon, qui est-ce qui disait, on sait très bien, c'est Alfred de Musset, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et donc, c'est.
Bah, il avait raison.
Vous n'avez pas forcément besoin d'être à l'article de la mort et en état de dépression avancée pour faire des choses intéressantes. Mais disons que être à l'écoute de ses doutes, de ses questionnements, ça peut aider à, produire des contenus artistiques pertinents, quoi.
Tout à fait.
C'est ça.
Non, et surtout, peut-être, alors, avant de parler de ce qui fait aussi l'intérêt de vos morceaux, je trouve, parce que ça saute aux oreilles, j'allais dire aux yeux, mais... on entend des extraits de films, alors on va peut-être réécouter un autre morceau pour bien se le mettre dans l'oreille, et après on parlera de vos influences. Est-ce que vous avez une autre idée de morceau comme ça à nous proposer pour les auditeurs ?
Bien sûr, on va s'écouter Whirlpool avec Charade, sur lequel du coup on peut entendre Audrey Hepburn.
Ah, magnifique film, avec, c'est Cary Grant ou c'est James Stewart ?
Je me souviens plus malheureusement.
J'ai toujours un.
On est musicien, on n'a pas dit qu'on était des cinéphiles.
Voilà, mais en tout cas, ce film.
on est touché par le cinéma.
Voilà.
Ce film est recommandé hautement par Radio Campus. Voilà.
Tout à fait.
Et au PTM.
Et au PTM.
Et au PTM.
Don't you, his bright blue eyes, a world more led, a mesmerized.
explosion de chaleur dans l'apérophonie avec Whirlpool de PTM. Et oui, est-ce qu'on raconte un peu ce qu'il y a derrière ce morceau? Parce que au-delà du film auquel on faisait référence avant de diffuser, il y a une belle histoire. Enfin, il y a toute une histoire en tout cas.
C'est ça, c'est le seul titre qu'on peut trouver sur notre album où on parle pas trop de trucs un peu morbides, en fait, puisque c'est une histoire d'amour. Donc c'est une histoire dans le film, c'est une histoire d'amour entre Audrey Hepburn et un autre gars, je me souviens plus trop du nom de l'acteur.
Du coup, on sait plus c'est Cary Grant ou James Stewart.
Exactement, on aurait dû checker, tiens, pendant
l'antenne. Dans tous les cas, c'est un bon acteur.
Oui, ouais, tout à fait.
Qui a la classe. Et exactement. Nous, ici, on aime bien l'homme le plus classe du monde.
George Abitbol.
Ouais, voilà, tout à fait.
Bien sûr.
Tout à fait.
Mais ouais, donc voilà, c'est une histoire d'amour. Et donc, du coup, forcément, après, nous, on prend la parole avec Baptiste, puisqu'on chante. Et là, donc, du coup, on actualise un peu la chose. C'est vrai que tu comparais ça à un date Tinder. Et en vrai, c'est un peu ça. On parle de ce qui pourrait passer dans un date Tinder. En fait, une fille qui arrive et qui rencontre un mec et qui est vraiment amoureuse au premier regard. Au premier regard, et du coup, il se passe plein de choses. Il se passe, il y a un toucher, il y a un verre, il y a une danse, il y a un sourire, il y a une étincelle, et puis du coup, ça se finit bien pour eux, puisque...
C'est du charme, de la sensualité, du sexe à pile.
Exactement.
Et du sexe tout court aussi, à la fin.
Ouais, plein de belles choses. Plein de belles choses.
Pour la petite anecdote, voilà, ce titre nous a valu la mention explicite, puisqu'à la fin, on dit « She's wet, he's hard », et pour les moins... bilingue d'entre vous, en fait, she's wet, he's hard, ça veut dire elle est mouillée et il est dur, quoi.
Était-ce vraiment la peine de traduire?
Ah, je sais pas, on sait jamais.
C'est vrai qu'à Grenoble, nous ne sommes pas très anglophones. Bon.
En France, en général, on l'est pas vraiment non plus.
Mais oui, oui.
Mais ça, à la limite, ça peut être des mots qui sont assez courants dans le vocabulaire des Français.
C'est vrai.
Et donc sans transition, non mais j'avais envie de rebondir, si j'ose dire, sur
rebondissons donc. Oui, allons-y.
Donc de rebondir un peu, du coup on parlait de Charade, etc., merveilleux film, je me souviens plus non plus du réalisateur, mais toutes ces infos sont vérifiables via des sites bien connus, merveilleux film, comédie romantique, comédie policière, etc. Mais vous avez à votre actif et dans votre besace de multiples influences cinématographiques qui nourrissent votre univers musical. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bien sûr.
Bah, ouais, alors, on peut t'en dire plein de choses. Perso, je vais pas te donner les. Je vais pas te donner des noms d'acteurs, je vais pas te donner des noms réels et tout. Après, c'est plus d'une manière générale l'esthétique de ces anciens films et qui nous plaît vraiment. Et en fait, moi, je me considère pas comme un cinéphile parce que je ne suis pas connaisseur, mais j'adore regarder des films comme ça. Et quand on a du temps de libre, on en regarde et puis on met des petits. Tu vois, on a un petit carnet pendant qu'on regarde et puis on note des passages qui pourraient être intéressants. Des fois, on est déçu parce que le film, on peut pas l'utiliser, parce qu'il y en a qui seraient vraiment parfaits pour ça. Et puis, si on peut l'utiliser, feu, tu vois, des fois, on se donne...
Et du coup, c'est pas forcément uniquement à cause des droits d'auteur, mais vous avez aussi un intérêt, d'après ce que j'ai compris, pour les vieux films autour de la... Enfin, qui tournent autour, en fait, qui sont avant et après... la grande coupure de 39-45, donc voilà, cette période un peu dorée d'Hollywood.
Exactement.
Et ouais, c'est ça.
Bon, tous les films noirs aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Exactement.
Et on parlait plus tard aussi, là, hors antenne, on parlait plus tard d'un film qu'apparemment tu as vu, Valentin, Network.
Ouais, tout à fait.
Qui est une critique des médias assez extraordinaire que je vous conseille de voir. Et du coup, ces films... qu'est-ce qui vous attire? Il y a un côté, je crois, un peu... qu'est-ce qui vous attire? Oui, qu'est-ce qui vous attire dans ces films, en fait?
Je pense que la première chose qui nous attire de manière esthétique, c'est le noir et blanc. C'est un truc qui est vraiment agréable à regarder. Ça peut paraître étrange, mais en fait, cette texture noir et blanc vieille, c'est quelque chose d'agréable à l'œil, pour nous en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Et même au niveau du son, les vieilles bandes son, le grain dans les voix, c'est quelque chose en fait qui je sais pas, qui à l'oreille est plaisant.
Ouais, et il y a ça, il y a le côté noir et blanc, il y a le jeu des acteurs, il y a la manière dont c'est mis en scène. Tu vois, à l'époque, ils n'avaient pas encore toutes les... comment dire, la connaissance dans les effets spéciaux. Et en fait, et dans tout ça, tu vois, donc en fait, on arrivait à t'en mettre plein les yeux avec, au final, pas grand-chose. Et c'était vraiment l'art du cinéma. Quand tu regardes un Hitchcock et que t'es cloué devant ta télé, et ben c'est la beauté des plans, la dramaturgie, tu vois, tout ça. Il y a une esthétique qui colle vraiment à ces années qu'on retrouve de manière différente plus tard, mais qu'on retrouve pas de la même manière, tu vois.
Il y a une authenticité vraiment dans ces films qui est très agréable.
Ouais, c'est presque pictural, artisanal.
C'est ça, voilà.
C'est ça.
Voilà.
D'ailleurs, pour faire on est en train de composer de nouveaux morceaux, on est en train de regarder du Ed Wood. Ed Wood, par exemple, c'était un mec, quand il faisait une scène, il faisait une prise. Son acteur, il se prenait le décor dans la tête, il disait c'est pas grave, on la garde, c'est authentique, c'est comme ça. Ça veut dire que le mec, il a fait quoi? Il est passé par la porte, il était trop large, boum, il se l'est prise. Voilà, c'est authentique, on la garde. Et c'est quelque chose qui est, je trouve que c'est un état d'esprit qui est génial dans l'art en général, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma ou dans la photo. C'est quelque chose je pense que c'est une notion qui est belle et qu'il faut garder, quoi.
On en revient au tout lisse, bien produit, tu vois.
Exactement.
C'est de garder ce côté, si je vous résume, peut-être vous me dites si je me trompe, fragile, instantané, et quelque part sincère aussi.
Exactement, ouais.
C'est ça.
Voilà.
Mais artisanal au final, aussi. Tu vois. C'est Microfilm un groupe qui n'existe plus maintenant, qui venait de Poitiers, malheureusement, et qui, eux, faisaient vraiment un truc post-rock, que instrumental, et qui utilisaient des samples de films aussi. Et eux, ils ne se considéraient pas comme des musiciens, mais comme des petits artisans du son, tu vois. Ils se considéraient comme ça, parce qu'ils bricolaient avec des samples et ils jouaient de la musique dessus, mais il y avait le côté vraiment artisanat, tu vois, le truc brut, fait main, je sais pas comment te...
Ouais, c'est précieux.
C'est précieux, voilà, ouais.
Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les sons très produits, très propres, voire un peu parfois saturés, surexcitants, etc., je trouve qu'il y a presque un côté militant là-dedans, de faire des choses finalement modestes, mais peut-être belles parce qu'elles sont modestes, en fait.
Peut-être, oui, c'est le côté de do it yourself qui les rend belles.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en fait, moi, personnellement, je peux écouter ce genre de musique qu'on parle de, qu'on qualifie aujourd'hui de mainstream et de comment dire, qui sont écoutés par beaucoup de monde, tu vois. On parle des majors, de tout. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants, mais c'est juste qu'il faut pas être dans une uniformité et il faut pas écouter que ça. Et il y a beaucoup de gens, de jeunes en particulier, qui aujourd'hui n'écoutent que ça, et je trouve ça dommage. Et je pense qu'il faudrait, on peut écouter de tout. En fait,
voilà. Et rejoins le comité de programmation musicale de Radio Campus. Je t'invite à envoyer un mail à... Non,
je vais envoyer mon CV, je crois, ça y est. Tu m'as convaincu.
Non, mais je pense qu'on se comprend, on partage effectivement des valeurs assez proches. Et je vous encourage donc, vous qui nous écoutez, si vous êtes dans le coin proche de l'aquarium, à aller entendre OPTM qui se produit... ce soir sur cette scène aux alentours de 22h pour être entre guillemets je dirais pas évalué, c'est un terme bien laid, mais en tout cas on espère apprécier. Oui, mais juger par un jury, c'est un peu moche, donc je cherchais un autre terme, mais tant pis, on va prendre celui-là. J'espère que le jury vous appréciera et on va écouter, sauf si vous voulez peut-être nous parler, on l'a pas abordé encore, j'oubliais. Parler un peu du processus de composition, comment vous m'avez un peu dit que c'était vous laissiez tourner, il y avait un côté comme ça, vous preniez des petits faisiez des buffs, des choses comme ça, et après ça
c'est,
venait
c'est ça, ouais, tout à fait, c'est un peu, au final c'est un peu comme une start-up, quoi. On fonctionne un peu sur du 80-20, c'est-à-dire le 80% de la composition il est composé ultra rapidement et le 20% restant ils mettent un petit peu plus de temps. Ces 80% là, ça va être la structure, ça va être la grille générale du morceau, quoi. On va partir, on va buffer, c'est-à-dire je vais faire mes réglages sur mon ampli, je vais lancer une ligne de guitare sans forcément l'avoir travaillé en amont, quoi. Et dessus, Baptiste, il va jouer dessus. Et puis, bon, pendant 3 heures, on tourne comme ça. Au bout d'un moment, on s'arrête
Tu viens quand même de comparer notre formation à une start-up.
C'est
intéressant.
C'est un peu trop dans l'air du temps à mon goût. Comparaison.
Non, mais disons que vu qu'on est pour terminer ou pas, je sais pas, mais on est que deux. Donc forcément, dans le processus de composition, c'est plus simple. T'as deux regards qui se croisent. T'as pas à chercher à droite, à gauche, ton bassiste, ton claviériste. Donc, ça se passe entre nous. Et donc, on joue tout simplement. Des fois, tu vois, on va partir pendant 30 minutes. On va jouer d'affilée. Et il va y avoir des trucs à chier. Et puis, dedans, il va y avoir un passage qui va être cool. Et généralement, ce qui est encore mieux, c'est qu'on est raccord là-dessus. C'est-à-dire qu'on finit nos 30 minutes et on se dit, putain, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'était quand même pas mal. Hein. Vas-y, on le reprend, on réessaye, tu vois.
Vas-y, excuse-moi.
Non, mais voilà, c'est... Après, il y a le côté aussi duo, alchimie qui fonctionne bien. Et encore une fois, on en revient à la spontanéité, au côté...
C'est ça.
Voilà, il n'y a pas de... On intellectualise pas à outrance la musique.
Ouais.
Voilà.
C'est ce que vous allez voir donc ce soir sur la scène de l'aquarium, des gens qui donnent tout et qui ne trichent pas avec leur public. Donc, on vous encourage à aller les soutenir, les écouter, pogoter, vous remuer ces vers sur leur musique. Et pour conclure en beauté, on écoute un dernier morceau que nous annonce Valentin.
Yes, Sonic, qui est un modeste hommage à Sonic Youth.
Et à la choucroute aussi. Mais voilà.
Un hommage à la choucroute.
Ouais, exactement. Voilà.
Alors, on va clôturer sur ce dernier morceau sublime, j'imagine. Et... nous donner rendez-vous très vite dans l'apérophonie pour de nouvelles émissions, de nouvelles découvertes et plein de plaisir. Bonne soirée à vous les amis, merci d'être venus au micro.
Merci à vous, merci beaucoup.
De nous avoir invités, merci beaucoup.
dans l'apérophonie, ce n'est jamais vraiment fini, puisque après OPTM et sans transition, nous passons au Printemps des Poètes qui se déroule la semaine prochaine grâce aux étudiants en master diffusion de la culture du master voilà master 1. Donc ils ont rencontré l'artiste Michel Lobu qui sera présent à Grenoble le 10 mars. Et donc je vous laisse au cours d'une interview découvrir le travail de cet artiste qui travaille pour la compagnie Tchourak Théâtre. À très vite.
Bonjour Michel Lobu.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes co-directeur de la compagnie Tchourak Théâtre qui mêle un univers poétique et fantaisiste. Et aujourd'hui, on va parler poésie à l'occasion du festival Printemps des Poètes 2019, organisé par l'Association des étudiants en Master Diffusion de la Culture, donc l'AMD. Et d'ailleurs, le 10 mars prochain, nous vous retrouverons à Grenoble pour votre théâtre d'objets intitulé « Deux pierres ». Qui, comme vous le dites si bien, tient tout entier dans la paume d'une main ou dans une boîte à chaussures. Pour introduire cette animation poétique, on aimerait en savoir plus sur votre univers. Donc, qu'est-ce qui fait la beauté de votre métier ?
Qu'est-ce qui fait la beauté de notre métier ? Je crois que c'est de décaler vraiment le quotidien. Je crois qu'on a la chance à la fois, effectivement, d'avoir cette pratique artistique, mais au sein même du quotidien, c'est-à-dire qu'on peut créer des événements, oui, on peut jouer nos spectacles dans les théâtres, mais on peut aussi les décaler, les jouer dans un bar, à la lisière de la forêt, dans le village, on peut vraiment intervenir directement dans la vie quotidienne. Et je trouve que c'est une chose très très importante.
Oui, ben ça se recoupe très bien avec ma prochaine question d'ailleurs, puisque j'allais vous demander comment est-ce que vous exploitez la notion de beauté au quotidien. Votre travail s'inscrit vraiment dans le quotidien
Oui, on fait des spectacles, on fait des expositions. Mais enfin, tout ça sont comme des actions artistiques, comme des actions poétiques, et ce qui permet de porter un regard différent, de proposer un point de vue différent sur le monde qui nous entoure.
Mais c'est vrai, c'est très important. Et du coup, qu'est-ce que représente la poésie dans votre travail, dans votre compagnie et dans le monde que vous avez créé avec cette compagnie qui est assez originale en fait ?
Je crois que pour nous, la poésie, c'est de s'amuser à décalquer le quotidien. Et j'ai l'impression que nous, notre poésie, en tout cas, elle se situe dans le petit décalage. C'est-à-dire qu'on va décalquer le quotidien et puis ensuite, on va déplacer ce calque et on va pouvoir créer de la poésie, enfin laisser en tout cas venir de la poésie dans cet espace-là. C'est un peu mystérieux peut-être, mais voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment à jouer. On fait du théâtre d'objets, c'est-à-dire qu'on utilise des objets de la vie quotidienne, des objets ordinaires. Et on travaille beaucoup sur l'ordinaire et sur l'espace vraiment de décalage qui peut exister entre l'ordinaire et cette poésie extraordinaire qui peut se mettre en place.
Oui, donc c'est en fait où est-ce que cette poésie se trouve dans l'ordinaire ? Vous la laissez plutôt venir à vous plutôt que vous allez la chercher, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Nous, on est plutôt justement à lui laisser la place. Lui laisser une place pour qu'elle puisse venir se développer. Je crois que la poésie, comme la nature, a horreur du vide et elle vient vite se nicher comme ça, dès qu'on lui offre un petit nid douillet, dès qu'on lui laisse un peu de place.
Oui, elle s'en sert dans toutes les petites failles du quotidien.
Parfait, oui. Quand on voit entre deux dalles de béton en pleine ville, quand on voit tout à coup des petits brins d'herbe qui font leur apparition, je crois que c'est des vrais beaux pieds de nez, des brins de poésie qui viennent comme ça s'installer.
Est-ce que vous lisez de la poésie ?
J'en lis un peu, la Q japonais. Bon, c'est vrai qu'il y avait dans cette simplicité quelque chose de très très beau. Après, je pense que la poésie n'est pas qu'écriture, elle est aussi peinture, elle est aussi dans la nature, dans le regard, l'oreille qu'on va porter. Enfin, quand on fait une balade en forêt, elle peut être très poétique, dans le temps de s'arrêter. Sur un petit bout de bois, les canettes de boissons en métal qui sont écrasées par les voitures, je trouve, sont aussi pleines de poésie parce qu'elles sont toutes plates et puis dans les plis, on peut arriver à voir des visages, ça peut nous raconter des choses. Et je trouve que la poésie, c'est beaucoup ce regard sur des sons, sur de la... Je crois que c'est ça, c'est être à l'affût peut-être. Être à l'affût, ça me plaît bien.
Oui. est-ce que vous pourriez nous raconter votre premier souvenir poétique ?
Premier souvenir poétique, c'est difficile. difficile à dire, surtout après.
Oui, étant donné que la poésie est partout, c'est un peu compliqué, mais.
Mais je crois que c'est, vraiment, en tout cas, si je parle des premiers, c'est vraiment en étant enfant, c'est vraiment de découvrir qu'avec une feuille arrachée dans le jardin, tout à coup, ça peut devenir complètement autre chose, et c'est vraiment un tremplin. Ce petit bout de feuilles, de branches, devient vraiment un tremplin pour inventer un monde. C'était vraiment ça. Je crois que c'est vraiment des moments d'errance dans le jardin.
Oui.
Dans le jardin de. Ouais, ouais.
Qui vous a permis de développer votre imaginaire.
Oui, je crois que c'est ça. Je crois que pour moi, la poésie, ce sont des fenêtres, des portes dans des murs que l'on pensait complètement aveugles. On pensait que ces murs étaient complètement pleins. Et tout à coup, on découvre qu'il y a des fenêtres, des portes. Et pour moi, la poésie, elle a cette vocation-là. C'est de comme ça, des failles, des brèches dans ces murs.
D'accord, merci beaucoup Michel. Ben, on a terminé, on retrouve votre actualité sur votre site Turac Théâtre et on vous attend impatiemment sur Grenoble le 10 mars pour le Printemps des Poètes.
Eh bien, avec grand plaisir de venir vous présenter de Pierre.
Merci beaucoup.
Merci.